Femmes, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage. Onde femme. Onde femme, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Onde Femme, Radio Zone 93.8. Comme tous les mercredis, nous nous retrouvons à 17h pour Remue-ménage jusqu'à 18h30 à 19h. À 18h30, pardon, c'est les informels de Radio Pleine Lune et à 19h jusqu'à 20h, les coups de cœur de Marjolaine sur tous les spectacles et autres activités artistiques que vous pouvez découvrir à Genève et dans la région française voisine. Aujourd'hui, dans Remue-ménage, eh bien, je vous propose une première rencontre littéraire avec les reines du crime. Nous avions fait une émission, il y a de cela déjà quelques temps, avec Viviane Gonick sur les reines du crime. Viviane est une passionnée des polars écrits par des femmes et elle nous avait parlé de toutes sortes de ces auteurs femmes qui ont su donner un genre tout à fait spécial au genre polar roman policier. Et cet été, le journal Le Monde a lui aussi donné son coup de chapeau, son coup de cœur à ces femmes auteurs de romans policiers en publiant toute une série de nouvelles écrites par des femmes nouvelles polars au féminin. Alors on les appelle reines du crime, que je vous me disais. Parfois, certains trouvent que c'est une étiquette facile, un peu ambiguë, et derrière ce titre un peu suranné, certains pensent qu'il s'agit un peu de cantonner d'une certaine façon au polar en chambre, celle que autrefois on reléguait à la cuisine. Eh bien, il semblerait en tout cas que l'étiquette, il y a pourtant belle lurette que les femmes auteurs de romans policiers s'en moquent comme de leur premier revolver. Et en tout cas, dès le début des années 80, elles ont fait voler en éclats les codes du roman criminel et investi le roman noir à leur façon, en bousculant un siècle de stéréotypes machistes. C'est ce que nous avait expliqué en tout cas Viviane dans notre émission. Alors, les lecteurs adorent ça, bien évidemment, et la jubilation est encore plus de mise, en particulier pour les lectrices qui trouvent auprès des femmes auteurs de polars des complices en humour, tendresse et toutes sortes de choses comme la terreur aussi, la mort et le goût du sang, et le regard croisé de femme à femme de chaque côté du miroir de l'écriture à suspense. Alors, on trouve les mains tendues à la rescousse, car même dans la solitude, transparaissent la solidarité chez les femmes. Il y a l'amour et l'amitié, et puis il y a la révolte contre tout les formes d'abus et de violences physiques et morales, sans la moindre mièvrerie, sans sentimentalisme bonnet. Et si les femmes auteurs et leurs créatures sont souvent revenues de tout, n'ont plus rien à découvrir, vaguement lasses, eh bien elles restent pourtant animées par de vraies convictions au fin fond des trous les plus noirs. Mais c'est ce qui manque un petit peu souvent dans toute cette histoire, c'est le moral. Ça, c'est ce que dit Martine Silbert, justement, dans un article du Monde. Mais alors, quant à moi, je vous propose de découvrir, 15 jours en 15 jours, pour les prochains temps, certaines de ces nouvelles donc, qui ont été publiées cet été 97 dans le journal Le Monde. Et aujourd'hui, eh bien, je me propose de vous faire découvrir une première de ces nouvelles, qui est écrite par une Française qui a pour nom Fred Vargas. Alors Fred, c'est son vrai prénom, puisque c'est le diminutif de Frédéric. Vargas, par contre, c'est un nom d'écrivaine. Elle l'a emprunté au personnage incarné par Ava Gardner dans La Comtesse aux pieds nus. Alors double nom, double vie, on pourrait dire en apparence seulement, car c'est sans doute à son métier d'archéologue que cette jeune Parisienne, qui est née en 1957, tient cet art de faire surgir un monde d'une vieille pierre ou d'un petit bout d'os de rien du tout. Son premier roman, parce qu'elle en a écrit 5 jusqu'à ce jour, c'est Les Jeux de l'amour et de la mort, qu'elle avait écrit en 1986 et qui annonce d'emblée la couleur Vargas. C'est un ton très singulier, le goût du jeu et des mots, un regard plus poétique que réaliste, une manière subtile d'ébranler le réel et l'ordre établi. Et ces 5 romans eh bien, lui ont amené, entre autres, le prix du Festival de Cognac pour son premier livre. Elle a reçu celui du Festival de Saint-Nazaire pour L'Homme au Cercle Bleu, qu'elle a écrit en 1992, et le prix de la Ville du Mans et le prix du Mystère de la Critique pour son dernier roman, De Boulet Mort, qu'elle a écrit en 1995. Alors voilà, aujourd'hui nous allons découvrir la nouvelle qui est parue dans le journal Le Monde de cet été, aux éditions Viviane Ami, et le titre c'est « Salut et liberté ». Juste quelques mots pour vous mettre dans l'ambiance du début. Depuis 3 semaines, chaque matin à l'aube, le vieux Vasco s'installe pour la journée sur le banc face au commissariat du 5e arrondissement de Paris. « Moi, je crois qu'il fait quelque chose », rumine le commissaire Adamsberg. Et voilà que le jour où le vieux décide d'améliorer son confort en installant près du banc un grand valet de bois pour suspendre son veston, arrive au commissariat une lettre anonyme. « Monsieur le commissaire, vous avez peut-être une belle gueule, mais dans le fond, vous êtes un vrai con. De mon côté, j'ai tué en toute impunité. Salut et liberté. » Posté sur un banc public, face au commissariat du 5e arrondissement de Paris, le vieux Vasco crachait des noyaux d'olive. 5 points s'il touchait le pied du réverbère. Il guettait l'apparition d'un grand flic blond au corps mou qui chaque matin sortait vers 9h30 et déposait une pièce sur le banc, l'air maussade. En ce moment, le vieux était vraiment fauché. Il était ailleurs et ainsi qu'il l'expliquait longuement à qui voulait, le thermocollant tue l'artiste. Le noyau passa à 2 centimètres du pied métallique. Vasco soupira et avala quelques gorgées au goulot d'un litre de bière. Le mois de juillet était chaud et dès 9h il faisait soif, sans même parler des olives. Depuis plus de 3 semaines que le vieux Vasco était installé sur ce banc, matin après matin, sauf le dimanche, il avait fini par repérer pas mal de têtes dans ce commissariat. C'était un bon divertissement, bien meilleur que prévu, et c'est fou comme ces gens-là remuaient. Pourquoi faire, on se le demande. Toujours est-il que du matin au soir, ils s'agitaient chacun à leur façon. À l'exception du petit brun, le commissaire qui se déplaçait toujours très lentement, comme s'il était sous l'eau. Il sortait pour marcher plusieurs fois par jour. Le vieux Vasco lui disait 3 mots. Il le regardait s'éloigner dans la rue, porté par un léger tangage, les mains enfoncées dans les poches d'un pantalon chiffonné. Ce type-là ne repassait pas ses vêtements. Le grand flic blond descendit les 3 marches du perron vers 10h, un doigt pressé sur le front. Il avait traîné ce matin, soit qu'il eut mal au crâne, soit qu'une grosse affaire soit tombée sur le commissariat. Ça pouvait arriver, somme toute, à force de remuer comme ça. Vasco l'appela avec de grands signes en montrant sa cigarette éteinte. Mais le lieutenant Adrien Danglars n'avait pas l'air pressé de traverser pour lui donner du feu. Il regarda fixement, près du banc, un grand porte-manteau en bois sur lequel était impeccablement suspendu un veston crasseux. « C'est ça qui te chiffonne, frère ?» demanda le vieux Vasco en montrant le porte-manteau. « Qu'est-ce que c'est que cette merde que tu as installée dans la rue ?» cria Danglars en traversant. « Pour ta gouverne, cette merde s'appelle un valet et ça sert à suspendre son costume sans le froisser. On t'a appris quoi dans la police ? Tu vois, tu mets le pantalon sur cette barre et ici tu déposes délicatement la veste. » Et tu as l'intention de laisser ça sur le trottoir ? Non, monsieur. Je l'ai trouvé hier aux poubelles de la rue de la Grande Chaumière. Je l'emporterai tout à l'heure chez moi et je le rapporterai demain. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite ? Cria Danglars. Mais pourquoi faire, mon Dieu ? Pour suspendre mon costume. À quoi d'autre veux-tu que ça serve ? Et tu as besoin de suspendre en pleine rue ? Un costume, ça ne se soigne jamais assez. Danglars jeta un regard à la veste élimée du vieil homme. « Et alors ?» dit le vieux. « Je suis dans une mauvaise passe. Cette veste vient d'un des meilleurs faiseurs de Londres. Tu veux voir l'étiquette ? Tu me l'as déjà montré, ton étiquette. Une des meilleures faiseurs, je te dis. Et un jour, avec un beau coupon, tu verras la doublure que je lui taillerai. Tu me supplieras pour l'avoir, mon costume anglais. Parce que toi, ça se voit que tu aimes les habits. Tu es un homme de goût. Tu ne peux pas laisser ce truc ici. C'est interdit. Ça ne dérange personne. Commence pas à faire le flic. Je n'aime pas qu'on me réprime. Danglars avait horreur qu'on le range, qu'on le simplifie. Il avait mal au crâne. Tu vas me faire virer ton valet, dit-il fermement. Non, c'est mon bien. Va te faire foutre. Je te dis que c'est mon bien. C'est ma dignité. On ne peut pas retirer ça à un homme. Le vieux se gratta la tête en le regardant s'éloigner. Il n'y aurait pas de pièce ce matin. Jeter son valet ? Une trouvaille pareille ? Pas question. Ça tenait son veston bien droit et surtout ça tenait compagnie. C'est vrai, il s'emmerdait à crever, lui, sur ce banc tous les jours. Le flic bon n'avait pas l'air de vouloir comprendre ces choses-là. Le vieux Vasco haussa les épaules, sortit un bouquin de sa poche et se mit à lire. Inutile d'attendre le passage du petit commissaire Brun. Il était arrivé à l'aube, comme d'habitude. On pouvait voir son ombre passer devant la fenêtre de son bureau. Celui-là marchait beaucoup, souriait souvent, parlait volontiers, mais n'avait pas l'air d'avoir beaucoup de pièces dans sa poche. Danglars entra dans le commissariat et dans le bureau de commissaire Adamsberg avec deux cachets dans la main. Adamsberg savait qu'il cherchait l'eau et il lui tendit la bouteille sans vraiment le regarder. Il tournait une feuille de papier entre ses doigts en se faisant du vent. Danglars connaissait assez le commissaire pour savoir, à la variation d'intensité de son visage, que quelque chose d'intéressant s'était produit ce matin. Mais il se méfiait. Lui et Adamsberg avaient des conceptions très éloignées de ce qu'on appelle un truc intéressant. Par exemple, le commissaire trouvait très intéressant de ne rien faire, alors que Danglars trouvait cela mortellement paniquant. Le lieutenant jeta un coup d'œil soupçonneux à la feuille de papier blanc qui voltait entre les mains d'Adamsberg. Il avala ses cachets, grimaça par amitié et reboucha sans bruit la bouteille. À vrai dire, il s'était accoutumé à ce type, tout en s'irritant d'un comportement inconciliable avec sa propre manière d'exister. Adamsberg se fiait à l'instinct et croyait aux forces de l'humanité. Danglars se fiait à la réflexion et croyait aux forces du vin blanc. « Le vieux Duban dépasse des bornes !» annonça Danglars en rangeant la bouteille. « Vasco de gamin ?»« C'est cela, Vasco de gamin. »« Et quelles bornes dépasse-t-il »« Mes bornes. » Ah, c'est plus précis. Il a apporté un grand manteau qu'il appelle un valet, sur lequel il a suspendu sa loque qu'il appelle un veston. J'ai vu. Et il a l'intention de cohabiter avec ce truc-là sur la voie publique. Vous lui avez demandé de s'en débarrasser ? Oui, mais il a dit que c'est sa dignité, qu'on ne peut pas retirer ça à un homme. Évidemment, murmura le commissaire. Dangler écarta ses longs bras en tournant dans la pièce. Depuis presque un mois, ce vieux, qui exigeait en outre qu'on l'appelle Vasco de Gama, comme s'il n'était pas déjà assez encombrant comme ça, avait pris ses quartiers d'été sur le banc d'en face. Il y mangeait, dormait, lisait et crachait tout alentour des tonnes de noyaux d'olive et de coques de pistache. Et depuis un mois, mine de rien, le commissaire le protégeait comme si c'était de la porcelaine. Danglars avait essayé plusieurs fois de virer Vasco, dont il trouvait la surveillance non pas suspecte mais pénible, et Adamsberg avait à chaque fois éludé en marmonnant qu'on verrait cela plus tard, que le vieux finirait par changer d'endroit. Et au bout du compte, on était déjà en juillet, et non seulement Vasco de Gama restait, mais il apportait son valet. « On va garder ce vieux longtemps ?» demanda Danglars. « Il n'est pas à nous, » répondit Adamsberg en levant un doigt. « Il vous gêne à ce point ?»« Il me coûte cher, » dit Danglars. « Et il m'énerve à ne rien foutre de la journée, à regarder la rue et à ramasser des tas de saletés qu'il trouve n'importe où et qu'il fourre dans ses poches. » Moi, je crois qu'il fait quelque chose. Quelque chose ? Mettre une brindille dans une enveloppe et la ranger dans son portefeuille, par exemple ? Vous appelez ça quelque chose ? Oui, c'est quelque chose. Mais je ne parle pas de ça. Je crois qu'il fait autre chose en même temps. Et c'est pour ça que vous le laissez là ? Ça vous intéresse ? Vous voulez savoir ? Pourquoi pas ? « Faut vraiment que ce soit l'été et qu'on ait du temps à perdre. Pourquoi pas ?» Danglars choisit de laisser tomber. Une fois de plus, Adamsberg était de toute façon passé à un autre ordre d'idées. Il jouait avec la feuille de papier blanc. « Ouvrez-moi un dossier propre, s'il vous plaît, Danglars. On a quelque chose à ranger. » Adamsberg sourit franchement en lui tendant la feuille du bout des doigts. Le papier ne comportait que trois lignes, composées de petits caractères découpés, soigneusement collés et alignés. « Lettre anonyme ?» dit Danglars. « Eh oui, c'est cela. On en a des brouettes. Celle-ci est un peu différente. Elle n'accuse personne. Lisez, lisez, Danglars. Ça va vous amuser, je le sais. » Danglars fronça les sourcils pour lire. 4 juillet. « Monsieur le commissaire, vous avez peut-être une belle gueule, mais dans le fond, vous êtes un vrai con. De mon côté, j'ai tué en toute impunité. Salut et liberté. X. » Adamsberg riait. « C'est bien, non ? » demanda-t-il. « C'est un canular ?» Adamsberg cessa de rire. Il se balança sur sa chaise en secouant la tête. « Ça ne me donne pas cette impression, finit-il par dire. Ce truc m'intéresse beaucoup. Parce que on dit que vous avez une belle gueule ou parce qu'on dit que vous êtes un vrai con ? Ah, simplement parce qu'on me dit quelque chose. Voilà un assassin, si c'en est un, qui dit quelque chose. Un assassin qui parle, qui a commis un crime discret, ce dont il est très fier, mais qui ne le sert à rien parce que personne n'est là pour l'applaudir. Un provocateur, un exhibitionniste, incapable de garder ses saletés pour lui seul. »
« Oui, » dit Danglars, « c'est banal. »
Mais ça rend la partie difficile, Danglars. On peut espérer une autre lettre, mais il peut tout autant s'arrêter là, repu d'avoir sorti sa crasse et trop pudent pour aller plus avant. Il n'y a rien à faire, c'est lui qui décide. C'est désagréable.
« On peut le provoquer. »
« Danglars, vous n'avez jamais su attendre. »
« Jamais. »
« C'est dommage. Répondre ruinerait nos chances de recevoir une autre lettre. La frustration fait bouger le monde. » Adamsberg s'était levé et regardait par la fenêtre. Il examinait la rue et Vasco en bas sur son banc qui farfouillait dans un sac en toile, debout près de son grand porte-manteau. « Vasco a trouvé un trésor et il le capture, » commenta-t-il doucement. « Je descends marcher un moment. » Je vais descendre, marcher un moment. Danglars, je reviendrai. Emmenez la lettre au labo et dites-leur que j'ai mis les doigts dessus.
Thank you.
Adamsberg ne vous pouvait pas rester au bureau la journée entière. Il fallait qu'il marche, qu'il regarde, qu'il contemple, sans pour autant en profiter pour réfléchir de manière cohérente. Poser un problème pour lui, trouver une issue, était une démarche à laquelle il avait renoncé depuis très longtemps. Ses actes précédaient ses pensées et jamais l'inverse. Par exemple, avec ce vieux, Vasco de Gama, il tenait à ce que ce vieux reste encore sur son banc. Mais il n'aurait pas su dire pourquoi. Il y tenait, c'est tout. Et puisqu'il y tenait, il devait exister une bonne raison pour ça. Un jour, il saurait laquelle. Il n'avait qu'à attendre qu'elle se manifeste à son heure. Un jour, en marchant, il saurait pourquoi. Oui, par exemple avec cette lettre. Danglars avait raison, ce n'était qu'une lettre, anonyme parmi d'autres. Et il la trouvait singulière et un peu alarmante. Ce n'était pas de se faire traiter de vrai con qui l'inquiétait ou leur surprenait. Non, il y avait songé assez souvent, lui-même. Par exemple, lorsqu'il calait devant une machine à plus de 6 boutons, ou lorsqu'il revenait après 2 heures de marche, incapable de dire à quoi il avait pensé, ou quand il ne pouvait pas dire si la lettre G était avant ou après la lettre K sans devoir se réciter tout l'alphabet à voix basse, ou si l'on était le matin ou l'après-midi. Qu'est-ce que l'assassin pouvait savoir de tout ça? Rien, évidemment. Il fallait que d'autres lettres arrivent. Ce truc n'avait rien d'une blague. Mais il n'aurait pas su dire pourquoi. Un meurtre commis quelque part, ni vu, ni connu. À présent, le tueur émergeait de sa planque avec prudence et vantardise. Cela ressemblait à cela. En même temps, Adamsberg avait l'impression d'être attiré dans un piège ou peut-être un gouffre. Quand ses pas le ramenèrent au commissariat, il se répétait qu'il fallait prêter attention, que quelque chose d'assez moche avait commencé. « Ne te conduis pas en vrai con. Surtout, fais bien attention à cela, » se murmura-t-il. « G est avant K. » Tu parles tout seul ? Vasco de Gama le regardait en souriant. Le vieux, qui n'était pas bien vieux d'ailleurs, 70 ans au plus, avait une belle tête maigre sous des cheveux épais, plutôt longs, argentés. On ne voyait pas ses lèvres sous la moustache tombante, mais son grand nez et ses yeux humides, son front haut, ses discours chaotiques et le recueil de poèmes qu'il déposait négligemment sur le banc faisaient de lui une caricature un peu ostensible du penseur dégringolé. On lui voyait les omoplates sous la chemise. Adamsberg ne croyait pas que le personnage était truqué, mais ce matin, il préférait prendre garde à tout. « Je parle tout seul, oui, » dit Adamsberg en s'asseyant sur le banc. « Je me donne de petits conseils. Tu veux une olive ? 5 points si tu touches le réverbère. Non, merci. Tu veux un biscuit ? » Vasco agitait sous son nez une boîte en carton. « T'as pas faim ? Ce sont de bons biscuits, tu sais. Je les ai achetés pour toi. » C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, mais il n'y a pas de mal à le dire. Qu'est-ce que tu fais par ici? Je m'assieds, il n'y a pas de sommetier. Pourquoi tu t'assieds ici? Parce qu'il y a un banc, ici ou ailleurs. Adamsberg soupirait. Ça te plaît d'être en face d'un commissariat? Reprit-il. Ça change, ça fait du mouvement. Et puis c'est comme pour tout, on s'attache. Moi, je m'attache très vite. Une fois, je me suis attachée à une crevette. Un oiseau passe encore, mais une crevette, tu te figures? Tous les 2 jours, je lui changeais l'eau dans sa cuvette. Ça m'a consommé du sel, crois-moi. Eh bien, elle était contente dans sa bassine bleue. C'est là que tu te rends compte combien que les crevettes et les hommes, ça fait d'eux. Ton collègue blond, celui qui n'a pas d'épaule, s'est foutu en rogne après moi ce matin. Pas à cause de la crevette, qui est décédée à l'heure où je te parle, mais à cause de ce valet. Le blond est assez emmerdant, mais je l'aime bien. Et puis il est généreux. Il se pose des questions sans fond et ça fait le bruit des vagues. Je connais la musique. Toi, en revanche, t'es pas étouffé sous les questions. Ça se voit à ta manière de marcher. Tu suis ton vent. Une tête de mule, quoi. Je m'y reprendrai à 3 fois si je devais te faire changer d'idée. Tiens, regarde la boîte d'allumettes. Je l'ai décorée moi-même. C'est fortiche, non ? Vasco, fidèle à l'une de ses principales manies, vidait méticuleusement ses poches et en déposant le contenu sur le blanc et sur le trottoir, comme s'il le voyait pour la première fois. Et ses poches, extrêmement nombreuses, contenaient une accumulation inépuisable d'objets inclassables. Une petite boîte en carton, déformée et coloriée, c'est ce sur quoi Damsberg jetait un coup d'œil. « Comment sais-tu ces choses sur Danglars ou sur moi ?» demanda-t-il. « Comme ça ? Je suis un poète, moi. Tout me parle. »« Ah, ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Vasco. Ça voyage là-dedans, » ajouta-t-il en frappant sa tête. « Tu l'as déjà dit. »« Ça voyage drôlement, même. Bon, imagine un instant qu'il y ait une grande flaque d'eau sale sur le trottoir. Tu saisis la situation ?»« Très bien. Bon. » Ton ami blond arrive, il voit la flaque, il s'arrête, il examine la chose et il la contourne. Il prépare bien son affaire. Toi, c'est après avoir marché dedans que tu réalises qu'il y avait une flaque. C'est une toute autre appréhension du monde. Tu comprends ? Mais le plus souvent, tu passes à côté de la flaque sans le savoir. Au flair, t'es comme un magicien. Le blond, il ne fait pas confiance à sa magie. Alors pas du tout. Tu vois cette petite tête sur cette photo ? Ne l'abîme pas ! C'est mon père. Et tu vas être épaté. Là, c'est ma mère. Je lui ressemble, pas vrai ? Je lui ai mis un petit cadre doré. Ça, c'est une photo maton d'un inconnu que j'ai trouvé par terre. Ne me demande pas qui c'est. En revanche, lui, là, c'est Valentin. Et c'est comme un fils. Mon père a sauvé sa grand-mère des Turcs et l'a aidé à s'enfuir d'Arménie. Ça remonte à loin. Attends, une petite branche d'arbre. Dis donc, hier, je marche. Et cette petite branche d'arbre me tombe sur les cheveux. Fais gaffe à ne pas la casser. Attends, tiens, regarde. Là, un cendrier jaune pliant. C'est une fille qui me l'a donné dans un café. Et j'ai jamais vu la fille. Ah. Là, les petits ciseaux. En revanche, je ne sais pas où je les ai eus. Je peux les prendre ? Ah non, pas les ciseaux. Trop utile. Prends le cendrier si tu veux. Où ça, tiens, un bracelet-montre. Je te remercie, je ne porte pas de montre. Ça sert pourtant, t'es con. Oui, on me l'a déjà dit ce matin. Ah bon ? C'est bizarre. Dans les journaux, ils disent le contraire. Tu sais vraiment beaucoup de choses, Vasco, vraiment. Parbleu, j'édite mon propre journal et même je le vends. Alors je lis ceux des autres et pour être au courant. Il y a 2 mois, ils ont parlé de toi avec ta photo et tout le fourniment. Tu es un type respecté, c'est bien. Moi, si j'étais respecté, je pourrais aller tailler des costumes en soie mieux qu'à Londres. Tu es tailleur ? Tout juste ailleurs, même si le client est rare. Le thermocollant tue l'artiste. Tu veux que je te lise cet article sur toi ou tu le connais ? Je l'ai dans ma poche. Attends. Tu trouves normal d'avoir dans une poche un article qui me concerne ? Ce n'est pas à cause de toi. C'est pour le pauvre gars qui s'est fait basculer dans la Seine. Le clochard du pont Henri IV qu'on appelait. Valet de carreau. Un ami, parole d'honneur. Je ne connaissais pas ton nom avant de lire de l'article. Tu as serré son assassin en 3 semaines. C'est fortiche, non ?
Je ne sais pas.
Si, ils disent que t'es un fortiche. Que mine de rien, tu as le génie de ces trucs-là. Moi, j'ai le génie de la poésie. À chacun sa croix, mon vieux. Je t'assure, j'ai le génie de la poésie et j'en fais pour mon journal. Seulement, pour faire des vers, il faut avoir mangé, tu le sais. En ce moment, la passe est raide. Adamsberg donnait à Vasco les pièces qui lui restaient dans la poche. Tu repars travailler ?
Ouais.
À tout hasard, je te préviens qu'il y a une flaque d'eau dégueulasse devant la porte de ton commissariat. Prends-y garde. Le grand blond l'a bien repéré, lui. Adamsberg dit merci et traversa lentement la rue.
Un pas, 2 pas, 3 parisiens. Garde ton pas, je garde le mien. J'ai passé 1 heure sous la pluie, et un flic m'a dit mettez-vous à l'abri. Mais la pierre est belle, souvenir de truelle. Tant pis pour moi qui n'ai pas de parapluie, c'est beau Paris.
Dans les rues se pressent les gens. Je suis toujours à contre-temps. Et dans le métro, la foule au trot. Je prendrai le prochain, mais le prochain est plein. C'est beau, Paris. Un pas, deux pas, trois parisiens. Garde ton pas, je garde le mien. J'ai sonné chez une amie de loin. Dans sa cour, y a plus qu'elle et son gamin. On a tout